Good Evening Business, l'invité.
Le député Charles Le Courson qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Député de la Marne. Mais venez saluer mon éminente collègue, bien évidemment.
Bonsoir.
Membre du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, membre de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Pouvez-vous déjà, en quelques secondes, nous raconter ce qu'ont été ces 72 heures qu'on nous a racontées comme étant épiques, monsieur de Courson? Est-ce que ça nous annonce un combat âpre, ce que vous avez vu ces dernières heures, finalement?
Ah oui, ça c'est certain. Mais ça n'a duré, nous, que 3 jours.
Oui.
Alors qu'en séance publique, ça va durer le triple, à peu près 9 jours. Vous voyez, utile. Et donc, on voyait que plusieurs groupes, en fait, ne voulaient pas qu'on discute du texte.
Ah oui.
Déposant 5600...
Lesquels?
La France Insoumise.
Oui.
5600 amendements. Au bout de 3 jours, on en avait examiné 500. Il en restait 5000. Le résultat, c'est quoi? On a examiné l'article premier. L'article premier, c'est les régimes spéciaux. Mmh. On va peut-être en parler. Les 5 régimes spéciaux qui sont mis en extinction. Donc, il y a eu un débat.
Ça s'est bien passé.
Il y a eu un vrai débat. Après, l'article 2, c'était l'index senior. Oui. Vous savez, cette idée que... Alors, on ne sait pas ce que c'est que l'index. Hein, mais c'est les porteurs sociaux qui vont définir ce que c'est l'index. C'est formidable pour les législateurs de voter des textes comme cela. Et donc, ça a duré plus d'une journée. Et après l'article 2, il y avait des tas d'amendements qui étaient de financement. Alors, les plus baroques, vous voyez, on taxait tout, machin, pour renflouer les caisses d'assurance vieillesse, pour ne pas avoir réformé en disant, il y a besoin de financement, on va taxer alors plutôt le capital, les milliardaires, certains voulaient des extinctions des milliardaires, enfin ça a été ubuesque, avec des gens qui criaient. Nous, à la commission des finances, on est quand même plus civilisés qu'à la commission des affaires sociales, puisque moi j'ai toujours été à la commission des finances, mais là j'avais fait un switch, donc j'étais membre de la commission des affaires sociales pendant ces 3 jours.
Mais alors pour qu'on comprenne où est-ce que vous vous situez, Charles de Courson, est-ce que vous, en l'occurrence, vous seriez prêt à voter ce texte en l'état, ou est-ce que par exemple, comme les LR, vous réclamez plus de choses sur les carrières longues notamment?
Nous, il y a une ligne rouge, c'est le passage de 62 ans à 64 ans.
Vous êtes contre.
De l'âge légal à partir duquel, dans le régime général, on peut demander sa retraite. Si le gouvernement ne lâche pas là-dessus, je voterai contre ce texte et je voterai, même s'il y a une motion de censure, je voterai la motion de censure. C'est clair. Et dans mon groupe, la très grande majorité sont sur cette même ligne. Par contre, si le gouvernement a enfin compris que le passage 62 à 64 ans était totalement injuste, puisqu'il frappe qui? Il frappe les gens qui ont commencé jeunes. Qui commence jeune? Ben c'est ceux qui ont peu ou pas de formation. Voilà. Hein, les cadres qui ont fait des études jusqu'à 22, 23 ans, ils ne sont pas concernés. Avec 43 annuités, 43 plus, mettez 23, on est déjà 66 ans, si vous voulez, une carrière pleine. Donc ils ne sont pas concernés par l'article 7, voyez. Donc ça, c'est une ligne rouge pour nous. Si on supprime... l'article 7, mais hélas, en commission, on s'est arrêté à l'article 2. Vous voyez, on était loin de l'article 7. Si on supprime l'article 7, là, tout est possible. Et surtout, si on fait une véritable politique senior, parce que le cœur de la réforme des retraites, c'est comment peut-on augmenter le taux d'activité des seniors, c'est-à-dire les 60-65 ans. On a proposé 5 pistes. L'augmentation de la surcote. Vous savez, la surcote, c'est quand vous dépassez les 42 annuités actuellement, vous avez, par année supplémentaire, 5%. On a demandé qu'on passe de 5 à 7. C'est-à-dire pour inciter les gens. Dans le régime général, on part à la retraite actuellement un peu plus de 63 ans. Ça veut dire que presque 60% des gens partent à la retraite au-delà de 62 ans dans le régime général. Vous voyez? Et d'après les études du corps, on sera... avant 10 ans, à 64 ans.
Vous savez, les études du corps, voilà, chacun y trouve ce qu'il veut.
Oui, d'accord, mais le 63 ans, c'est un fait objectif.
Oui.
Voilà. Et ça, c'était la première piste. Il y avait la piste de la formation, c'est-à-dire de ne pas relâcher l'effort de formation sur les seniors.
Oui.
Il y avait d'améliorer le cumul emploi-retraite. Oui. Le gouvernement a fait une mesure qui va dans le bon sens, qui est que, vous savez, quand vous reprenez une activité alors que vous êtes retraité, vous cotisez au régime de retraite, mais vous n'avez pas d'ouverture de droit. Donc ça, on aura... de nouveaux droits, ce qui est normal et juste. Et nous voulions en plus qu'on déplafonne le cumul emploi-retraite.
Ouais,
vous savez, plusieurs régimes, pas
absolument.
Tous, ont plafonné et bas à un peu plus de 22 000 euros annuels. Ouais, donc c'est beaucoup trop bas.
Alors, attendez, parce que votre ligne rouge sur les 64 ans, pour moi, elle ne coulait pas de source, parce que vous que l'on s'est attaché au sérieux budgétaire, est-ce que vous ne dites pas quand même, à partir du moment où on considère que c'est une réforme purement financière,
Et c'est ça l'erreur.
C'est l'erreur fondamentale. Voyons-le comme ça, mais à partir du moment où on considère que c'est une réforme strictement financière, est-ce que vous croyez que c'est en obérant le montant de cette réforme, les économies générées par cette réforme, à coup de redistribution et de concessions, que justement on va atteindre l'objectif officiel avoué de cette réforme, qui est de ramener le système à l'équilibre à horizon 2030?
Dans la version officielle, l'augmentation de 62 à 64 ans et le passage de 42 à 43 annuités pour avoir la retraite pleine rapportent 18 milliards échéance. Et on en redonne 6 dans un certain nombre de mesures. Mais l'économie de 18 milliards n'est pas de 18 milliards. Elle est à peine de 12. Pourquoi ? Parce que la conséquence telle que c'est montée, c'est que vous allez faire augmenter le coût du chômage des seniors, et qui paiera l'UNEDIC, enfin les ASEDIC. Et deuxièmement, ceux qui n'ont plus de droit à ASEDIC seront au RSA. Et c'est les départements qui paieront. Les estimations, c'est des ordres de grandeur, c'est entre 25 et 30% de ces économies entraîneront une augmentation des coûts. Donc on sera à 12. Et 12 moins 6 qui sont proposés par le gouvernement dans différentes mesures, qu'est-ce qui reste ?
Mais il reste 6.
Et non, on met le
avant
feu.
Il reste 6 avant le débat budgétaire, c'est ce que ça veut dire.
Absolument. Et on met le feu au pays. Et le gouvernement a dit que peut-être qu'il pourrait lâcher sur tel ou tel point.
Alors justement, on va en parler de ce gouvernement qui pourrait lâcher ou pas. Elisabeth Borne s'exprime à la télévision ce soir. Est-ce que vous pensez sincèrement à des nouvelles concessions ou est-ce que vous pensez qu'ils ne céderont pas sur les 64 ans ?
Madame la Première Ministre a annoncé qu'elle ne calerait pas sur le 62 à 64, c'est-à-dire sur l'âge légal de départ à la retraite du régime général.
Donc vous savez que c'est un totem.
Alors, peut-être qu'elle évoluera sous la pression populaire et sous la pression, puisque nous, le groupe Lyo, très très majoritairement sur la position que je vous ai indiquée, c'est-à-dire améliorer les droits familiaux, améliorer, avoir une politique senior. C'est ça les deux grandes priorités. Il y a d'autres choses dans le texte.
La pénibilité.
Les inégalités femmes.
Mais la pénibilité, ils s'y sont très mal pris. Il faut faire confiance aux partenaires sociaux et renvoyer aux partenaires sociaux. Jamais les lois nationales pourront faire face au problème de la pénibilité. Il faut que les partenaires sociaux définissent branche par branche.
Oui, mais
on est
bien d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce que vous dites sur le sujet des inégalités femmes-hommes?
Ben, sur les inégalités femmes-hommes, on découvre que ce texte ne traite pas de la question des femmes, et en particulier des femmes qui ont eu des enfants. Hein. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai posé la question au ministre Dussopt, en lui disant « Mais vous ne faites rien sur les droits familiaux. Les droits familiaux, c'est une honte. Expliquez-moi pourquoi, dans le régime général, les femmes ont droit à deux annuités, deux années par enfant ?» Alors que dans les régimes publics, c'était un an réduit pour les enfants nés à partir de 2014 à une demi-année. Les majorations pour enfants, vous savez que c'est 10% pour le troisième enfant, pratiquement dans tous les régimes, mais dans le régime général, que vous en ayez 3, 4, 5, 6, c'est toujours 10%. Alors que dans les régimes publics, c'est 10% et à partir du quatrième, 5% par enfant jusqu'à 25%. C'est tout ça qu'il faut revoir. Les plafonds, les pensions de réversion, il n'y a rien. Hein, le drame de femmes qui perdent leur mari, c'est le cas très majoritaire, à 40 ans, elles n'auront pas de pension.
Mais alors, ce que vous dites, c'est que si le gouvernement revient vers vous en disant on avance sur les seniors, on avance sur les inégalités femmes-hommes et sur la pénibilité, ça
et
ne vous satisfera pas.
62, 63.
Voilà, et sans renoncer à ça, vous n'êtes pas satisfait.
Non, ça, c'est une ligne rouge. L'article 7, c'est une ligne rouge. Et d'ailleurs, le gouvernement ne veut pas. Mais attendez, dans la vie, il faut savoir écouter les autres. Il faut savoir écouter le pays. On peut parfaitement avoir redressé les finances des régimes, on en a 42, des régimes, sans toucher à l'âge légal de départ à la retraite. On peut parfaitement y arriver. Vous voyez, en jouant sur la surcote, la décote, les annuités, ce que propose le gouvernement, on est d'accord là-dessus, d'accélérer la loi Touraine, de passer d'un un mois par an à trois mois par an, c'est ce qui avait été fait.
Non, mais là, vous allez avoir un souci de timing, parce que si le gouvernement passe par le 47.1, ça va réduire largement la durée des débats au Parlement.
Mais madame, non, le 47.1 n'intervient qu'au bout des 20 jours.
Oui, évidemment.
C'est-à-dire de 9
jours.
Mais
ça permettra de faire passer la réforme par ordonnance.
Non. C'est pas comme ça que ça se passe.
Alors, allez-y.
Comme on aura examiné sur les... On est à 20 500.
Hein,
ça y est, c'est clos. On ne peut plus déposer d'amendement pour la séance. Si on en fait en 9 jours, vous savez, quand on fait 400 amendements, des journées de 10 heures, 12 heures, c'est pas mal. Donc, on va faire 1000, si on en fait 2000, 3000, mais peu importe. Donc, on va peut-être faire l'article 1, l'article 2, je ne sais pas si on arrivera à l'article 7, parce que tout est fait pour qu'on ne vote pas sur l'article 7, qui est le cœur de la réforme.
Évidemment.
Et donc, quand les 20 jours, c'est-à-dire les 9 jours de séance seront achevés, on constatera qu'on n'a pas fini le débat. Et donc, c'est le texte initial déposé par le gouvernement qui est passé au Sénat. Nos collègues sénateurs, qui sont de fins manœuvriers, vont faire, la majorité sénatoriale va faire un texte. Et c'est ce texte qui va arriver en commission.
Les sénateurs qui, je précise, ne donnent pas l'exemple, en matière de...
Sur les
retraites. Vous aviez déposé, des amendements en ce sens.
C'est une thèse que je défends depuis plus de 30 ans, qu'il faut mettre en extinction, et non pas supprimer, comme je le vois. Il faut mettre en extinction les régimes des parlementaires, et que les parlementaires aient les mêmes règles que le régime général. C'est quasiment fait pour l'Assemblée nationale. On a fait deux réformes.
Ouais.
On a divisé par deux les droits à pension des députés. Les gens n'en sont pas conscients. Mais au Sénat... Nous, on a 684 euros net de pension par mandat de 5 ans. Au Sénat, on est à 2100 pour des mandats de 6 ans. Alors, vous corrigez, ça fait quand même presque 2,5 fois. Et il faut donner l'exemple. On ne peut pas demander des efforts à nos concitoyens sans montrer que si on est là, pas pour se servir, c'est pour servir notre peuple.
Dernière question en quelques secondes, monsieur le député. Je vous permets de rappeler que vous êtes député depuis une trentaine d'années. Vous
avez commencé, 30 ans.
Depuis 1993. Donc des réformes, des retraites, vous en avez vu passer.
Oui.
Qu'est-ce que vous dit votre expérience sur l'issue de ce feuilleton? Allez, s'il fallait faire un pari. Je sais que c'est bien périlleux, mais enfin, des réformes des retraites, vous en avez vu passer, donc vous avez peut-être quand même une petite intuition.
Je vais vous dire, les jeux sont ouverts.
D'accord.
Les jeux sont ouverts. Rien n'est joué, et je pense que ça peut se terminer d'une façon très différente. Méditez sur ce qui s'est passé il y a 4 ans. Heureusement qu'il y a eu la crise du Covid qui a été le prétexte pour ne pas continuer. Parce que ce texte était ni fait ni à faire. La précédente projet de réforme, vous savez, le régime universel, on créait un 43e régime et tous les 42 autres régimes étaient transférés, ce qui était une usine à gaz.
Il est passé par 49-30 début 2020, avant les confinements, évidemment.
Oui, mais je n'ai pas fini tout à l'heure. Après commission paritaire, s'il y a un accord, vote final à l'Assemblée, puis au Sénat.
Oui.
Et là, il y aura probablement un 49-3.
Vous nous avez fait l'histoire avant l'histoire, finalement. Bon, bah écoutez, tout ça est sur bande, comme on dit.
En tout cas, à force de vouloir gagner cette bataille de l'Assemblée, il est fort probable que le gouvernement perde la bataille de l'opinion.
On verra bien, merci.
Mais ça, c'est déjà fait.
C'est déjà fait.
Presque 75% des actifs sont contre. Et on disait, mais les retraités sont pour. Eh ben non, même la majorité des retraités, maintenant, est contre. Alors que on ne touche pas, si vous voulez, à ceux qui sont retraités.
Oui, absolument, on ne leur demande rien.
On suivra ce feuilleton, on sera ravis de vous réinviter, monsieur le député, pour voir comment tout ça évolue. Ça sera avec
Madame, plaisir. Monsieur le journaliste, ça sera avec toujours un très
grand. Merci infiniment. Charles
Merci
de Courson, député de la Marne, membre du groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, membre de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée. Merci beaucoup, monsieur le député, de passer nous voir ce soir sur BFM Business.